Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Consécration ou avertissement? Le magazine américain Newsweek fait sa une sur l'inarrêtable Premier ministre indien. Narendra Modi y est dépeint comme l'homme qui est en train de changer l'Inde et le monde. Arrivé au pouvoir en 2014, avec son parti nationaliste hindou, Narendra Modi brigue aujourd'hui à 73 ans un troisième mandat à la tête du pays le plus peuplé au monde. 1 milliard d'électeurs appelés aux urnes pour les législatives à partir de demain et jusqu'au 1er juin. À chaque apparition publique, le Premier ministre bat le rappel des troupes en promettant des jours radieux.
Dans un futur proche, l'Inde deviendra la plaque tournante mondiale de l'énergie verte, des produits pharmaceutiques, de l'électronique ou encore de la construction automobile.
L'opposition, elle, dénonce un pouvoir autoritaire. Figure de proue du parti du Congrès, Rahul Gandhi accuse même le gouvernement de l'empêcher de faire campagne.
Tous nos comptes bancaires ont été gelés. L'idée que l'Inde est la plus grande démocratie du monde est un mensonge complet.
Une accusation reprise en cœur par un autre parti, l'AAP. Ses militants manifestaient contre la détention de leurs dirigeants sous prétexte de corruption avant d'être eux-mêmes interpellés.
C'est tout simplement honteux. Nous vivons sous un régime dictatorial.
Par le passé, Narendra Modi a été pointé du doigt par les Occidentaux pour son nationalisme hindou décomplexé et ses mesures contre les minorités religieuses, notamment les musulmans. Mais depuis, le Premier ministre indien, à la tête de la 5e puissance économique mondiale, est devenu un partenaire très courtisé. Alors Narendra Modi est-il vraiment inarrêtable? La plus grande démocratie au monde est-elle en danger, comme l'affirment ses opposants? À marche forcée, peut-il transformer l'Inde en nation hindoue?
Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour essayer de répondre à toutes ces questions qu'on vient d'entendre à l'instant. À mes côtés, Vaiju Naravane. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes correspondante pour le site d'information en ligne indien TheWire.in. Vous êtes par ailleurs éditorialiste pour le Hindustan Times. Et selon vous, le scrutin qui démarre demain représente la plus grande élection de l'histoire de l'humanité. Mais malheureusement, avec Narendra Modi, dites-vous, l'Inde devient de plus en plus une démocratie illibérale. À vos côtés, Claude Blanche-Maison, bonsoir, bienvenue
bonsoir.
À vous, ancien ambassadeur de France en Inde de 1996 à 2000, et vous avez publié « L'Inde contre vents et marées » aux éditions Temporis. Selon vous, quels que soient les défauts de Modi, et notamment sa politique à l'égard des minorités, l'Inde a aujourd'hui atteint un niveau d'autonomie qui fait que son développement va se poursuivre. Ce pays est devenu une grande puissance, dites-vous. Et puis à vos côtés, Mélissa Levaillant, bonsoir, bienvenue à vous. Chercheuse associée à l'European Council on Foreign Relations, vous êtes spécialiste de l'Inde, co-auteur du livre Paix et sécurité, une anthologie décentrée aux éditions CNRS. Selon vous, l'Inde veut se placer comme le leader du Sud global. Modi est capable d'avoir des relations aussi bien avec Moscou qu'avec Washington. L'objectif de l'Inde, c'est de se défendre face à la Chine. Tout de suite, Valérie, pour ouvrir ce débat, vous avez une phrase du jour.
Eh oui, la phrase du jour, c'est « la démocratie est dans nos gènes ». Voilà ce qu'a déclaré Narendra Modi la semaine dernière dans le magazine Newsweek. Il rajoutera même plus tard que l'Inde est la mère de la démocratie, rien que ça. Mais il est vrai qu'avec l'organisation du plus grand scrutin du monde et ses 970 millions d'électeurs, un taux de participation qui approchait les 67% lors des dernières élections, il y a de quoi saluer la performance, Madame Naravane ?
Saluer, oui, parce que l'Inde, c'est le seul pays, si on part des pays de Moyen-Orient, à part Israël, en allant jusqu'à Australie, c'est le pays qui a eu une démocratie et un changement de gouvernement tous les 5 ans à partir de 1947. Jamais est-ce qu'il y a un attentat vers un coup d'État et que les Indiens n'accepteront pas un coup d'État. On a eu une période sombre de 18 mois, comme Mme Gandhi avait déclaré un état d'urgence, mais c'était toujours des civils au pouvoir. C'est un record qui est sans rival dans le Sud global dont on parle aujourd'hui. Mmh. C'est la plus grande démocratie. Il y a une tradition démocratique maintenant, mais est-ce que c'est une vraie démocratie ou une autocratie électorale? Ça, c'est la question.
Claude Blanche-Maison, c'est aussi un défi logistique, ce scrutin. Évidemment, il va durer 6 semaines, il y a plus de 900 millions d'électeurs.
Oui, il faut faire voter plus de 900 millions d'électeurs inscrits. Et par conséquent, il faut déplacer d'État à État toute la logistique, évidemment. À la fois les appareils pour voter, les gens qui surveillent les votes, les fonctionnaires, les policiers qui assurent la sécurité. Donc je crois qu'il y a 6 ou 7 parties de l'Inde qui ont été séparées. Et donc il va y avoir des grands déménagements chaque semaine d'une grande région à une autre pour que ces élections puisse se dérouler dans des conditions raisonnables. Et d'ailleurs, en effet, ce qui est dans le fond, le fait que ce soit une démocratie ou pas, on regarde sur le plan extérieur, il y a eu des alternances en Inde, et non seulement il y a des alternances au centre, mais il y a des alternances dans chacun des États,
alors on va...
ce qui fait une double alternance, une double démocratie.
On va y revenir, mais justement, là, en termes d'alternance, pas trop de suspense, a priori, ce serait quand même Narendra Modi qui sera réélu.
Oui, là, c'est, pour le coup, c'est une élection où il y a assez peu de suspense et où le débat a beaucoup tourné finalement autour de Narendra Modi et autour de sa réélection. Du coup, c'est quand même, ça a été finalement moins débattu dans les semaines qui ont précédé cette réélection parce que l'opposition a eu du mal à se recomposer. Il y a eu quand même une alliance qui s'appelle India qui s'est composée de plus de 20 partis, mais elle s'est quand même délitée et ils ont eu du mal à porter un programme politique qui faisait vraiment, qui portait un projet alternatif à celui de Narendra Modi, mis à part le fait d'alerter sur les dangers que représente le Parti nationaliste hindou en termes de protection des minorités. C'est une réelle, il y a des vraies dérives autoritaires. Mais ils ont eu du mal à proposer un projet alternatif par rapport à celui du BJP qui se projette déjà sur l'Inde en 2047 et qui promeut cette vision de l'Inde développée.
Alors, on le disait à l'instant, il y a donc une longue histoire, une longue tradition démocratique en Inde. Et rappelons que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, que l'Inde a accédé à l'indépendance. 4 ans plus tard, se déroulaient justement les premières élections générales, marquées à l'époque par le triomphe de Nehru. C'est notre archive du jour.
Pour une nation qui venait de sortir si récemment de la domination étrangère, c'était un grand pas en avant, un pas audacieux. La première phase de cette grande expérience fut de dénombrer les listes des électeurs éligibles, de dresser les listes électorales pour l'ensemble du pays. C'était une tâche de la plus grande ampleur, car plus de 175 millions de noms devaient être compilés et saisis. Il était maintenant temps de gagner la confiance du corps électoral lui-même concernant cette grande expérience. Tous les moyens de publicité ont été utilisés pour orienter l'électeur. La démocratie était sur le banc d'essai et nos millions d'Indiens furent les arbitres.
Alors Claude, Blanche-Maison, on vient de le voir, à l'époque il y avait un véritable enthousiasme pour cette démocratie naissante, mais aujourd'hui, après 10 ans de Modi au pouvoir, elle est dans quel état cette démocratie ?
Écoutez, la constitution est toujours la même. C'est la constitution de 1950 qui a été rédigée par un certain Ambedkar, qui était très célèbre parce que c'est un Dalit, un sans-caste en réalité, qui a fait des études d'avocat en Grande-Bretagne, comme d'ailleurs Nehru, comme d'ailleurs Gandhi. C'est une république d'avocats formée en Grande-Bretagne et qui avait transcrit dans la constitution, en effet, quelque chose qui ressemble aux institutions britanniques, c'est-à-dire un régime parlementaire avec en plus une cour suprême qui était empruntée aux États-Unis. Et cette constitution est toujours là. Donc l'enjeu, en fait, le vrai enjeu de l'élection qui commence demain, c'est de savoir si le BJP de Narendra Modi et leur alliance aura la majorité des 2/3 ou simplement la majorité absolue. S'il a la majorité des 2/3, il peut modifier cette constitution, qui ne l'a pas été de façon substantielle. Elle l'a été à la marge. Quelquefois, il y a eu des amendements. Mais effectivement, on s'inquiète du sort qu'il réserve à cette constitution si, par hasard, il avait une majorité des 2/3 et s'il voulait inscrire qu'il s'agit d'un État hindouiste.
Voilà, justement, on va y jouer dans Ravanet. C'est ça l'enjeu principal, cette dérive vers une démocratie libérale que vous pointez, le nationalisme de Modi et cette hindouisation à marche forcée qui risquerait d'être accélérée par une réforme de la Constitution ?
Tout à fait, c'est le grand enjeu. Mais je mettrai un petit bémol là, parce que pas simplement qu'il a besoin de 2/3 des sièges, mais il faut aussi que 50% des États qui constituent la fédération indienne doivent aussi voter pour un changement de constitution. Donc, ce n'est pas tout à fait sûr que Narendra Modi arrive à installer un gouvernement BJP de son parti dans 50% des États, des 28 États constituants de l'Union indienne.
Et pourtant, Mélissa Levaillant, ça semble peut-être aussi logique de vouloir unifier le pays et ses 28 États ?
Oui, alors après, s'ils obtenaient les deux tiers des voix pour modifier la Constitution, en pratique, a priori, leurs objectifs, c'est... qu'est-ce que ça veut dire, une hindouisation ? Il y aurait peut-être une uniformisation du Code civil qui est débattue aujourd'hui et qui a été mise en place dans un des États de l'Inde, dans l'Uttarakhand. Mais a priori, aujourd'hui, le BJP est plutôt sur une ligne de chaque État fera l'uniformisation qu'il recherche. Quelque chose qui est à leur programme aussi, s'ils peuvent modifier la Constitution, enfin en tout cas la loi sur les élections, c'est d'aligner tout le calendrier électoral des États fédérés avec les élections nationales, ouais, pour pouvoir surfer sur une vague d'élections majoritaires et pouvoir bénéficier, limiter les alternances au sein des États fédérés. Donc là, on n'est pas sur une hindouisation, mais on est sur un renforcement de la majorité potentielle du BJP.
Alors ce nationalisme porté par Narendra Modi et cette hindouisation à marche forcée qu'on évoque se traduit aussi, Anna, par une réécriture des manuels scolaires d'histoire.
Oui, disparue l'histoire des Moghols, cette dynastie musulmane qui a régné en Inde du XVIe jusqu'au milieu du XIXe siècle. Disparues aussi les émeutes anti-musulmans en 2002 dans le Gujarat, cet État qui était gouverné à l'époque par Narendra Modi. Plus de traces non plus de l'assassinat de Gandhi par un nationaliste hindou en 1948, ni de l'état d'urgence, on en parlait tout à l'heure, qui avait été décrété par la première ministre Indira Gandhi entre 1975 et 1977. Voilà, tous ces passages de l'histoire ont disparu des manuels du secondaire. Et le gouvernement nationaliste ne cache pas sa volonté, je le cite, de réécrire l'histoire de manière glorieuse dans le but d'inspirer les générations futures. Ce sont d'ailleurs les mots du ministre de l'Intérieur il y a 2 ans. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement s'attaque aussi aux matières scientifiques. Depuis 2014, le BJP rappelle régulièrement la supériorité de l'hindouisme dans le domaine des sciences et va même jusqu'à remettre en cause certaines théories scientifiques occidentales. Résultat, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, le théorème de Pythagore comme la théorie de l'évolution de Darwin ne sont plus du tout enseignés dans le secondaire. Vaiju Naravane, est-ce qu'en Inde, voilà, ça ne choque personne ? Il y a des réactions ?
Il y a beaucoup de réactions chez les universitaires, chez les intellectuels et d'autres. Mais comme Narendra Modi et ses alliés détiennent 303 sièges dans un Parlement qui fait 545 sièges, ils peuvent faire passer n'importe quelle législation qu'ils veulent. Mais quand vous entendez un ministre de la Culture et ministre de l'Éducation qui dit « Mais on n'a jamais vu un singe se transformer en humain ». Et la théorie de l'évolution, donc, pour eux, c'est tout simplement absurde. Quand vous avez des gens qui disent « Non, dans les Védas, on avait déjà inventé l'aviation, on a déjà décrit les avions qui volaient dans les Védas », qu'est-ce que ça fait au tempérament scientifique que la Constitution 1950 a essayé de nourrir au sein du pays? Parce que le but, c'était de faire de l'Inde un État moderne, progressiste, qui entre dans les prochaines ères, dans les prochains siècles. Et là, on est en train de retourner en arrière.
Et en même temps, Claude Blanche-Maison, il est quand même très populaire, avec 80% d'opinions qui lui sont favorables. Est-ce que c'est aussi parce qu'il est nationaliste?
Oui, pour plusieurs raisons. En ce qui concerne la réécriture de l'histoire, effectivement, c'est une réécriture de l'histoire en fonction des mythes qui fondent l'hindouisme, du Mahabharata, des Védas, etc., qui sont des histoires mythiques dont il n'y a aucune preuve historique, en réalité. Et dans le fond, les gens aiment bien ça, puisqu'ils ont été habitués à ne pas lire l'histoire scientifique, comme on le dit, mais des histoires racontées par d'autres, par les Anglais, par exemple, qui avaient écrit des histoires de l'Inde, qui étaient l'histoire de l'Inde racontée par les Anglais. Et puis maintenant, c'est l'histoire de l'Inde racontée selon les mythes hindous. Et dans les deux cas, ça ne correspond pas à la réalité. Sur les questions scientifiques, effectivement, je pense que les Indiens ne prennent pas ces déclarations très au sérieux, parce que l'Inde est un pays très scientifique, qui produit chaque année 350 000 ingénieurs. C'est pratiquement autant que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest réunies. Et par conséquent, c'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Et si vous voyez les gens qui dirigent les entreprises de haute technologie, y compris dans la Silicon Valley, ce sont très souvent des Indiens. Et eux croient aux mathématiques et croient à la science contemporaine.
Justement, Mélissa Levaillant, cette influence de l'Inde à l'international a changé, et l'image de Modi, à l'international aussi a considérablement changé. On se souvient que lorsqu'il dirigeait un des États indiens, son nationalisme faisait qu'il était ostracisé à l'international, notamment parce qu'il y a eu des émeutes anti-musulmans. Désormais qu'il dirige le pays depuis maintenant 10 ans, il est devenu incontournable. Ça, tous les chefs d'État le rencontrent. Pourquoi ? Parce qu'il est plus modéré aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans ?
Alors, je pense que quand il a été élu en 2014, en effet, à un moment de son élection, il était privé de visa aux États-Unis et il a réussi à faire changer, si vous voulez, sa vision. Et en 2014, il faisait quand même attention, il était assez modéré, ça ne voulait pas dire dans son idéologie, mais dans ses discours. Il était beaucoup plus modéré qu'aujourd'hui dans son discours sur le nationalisme hindou, en tout cas sur la scène internationale. Et tout son discours était quand même orienté vers le développement économique
du pays.
Pourquoi
est-il devenu incontournable sur la scène internationale aujourd'hui ? Pourquoi tous les chefs d'État le rencontrent ?
Alors, il bénéficie du contexte international, de la montée en puissance de la Chine, de l'émergence de des stratégies par les pays occidentaux, de stratégies dans l'Indo-Pacifique pour accroître leur présence et puis contrebalancer la Chine. Et dans ce contexte-là, en plus d'un développement démographique et économique, l'Inde est considérée comme un partenaire incontournable et un pilier stratégique pour les pays occidentaux et pour des pays comme le Japon ou l'Asie du Sud-Est également.
Et justement, Narendra Modi, vous le dites, courtise autant qu'il est courtisé, comme le 14 juillet dernier ici en France, Emmanuel Macron l'accueillait au premier rang du défilé militaire avant de lui remettre la Grande Croix de la Légion d'honneur, une tribune qu'avait saisi le Premier ministre indien pour asseoir sa stature internationale. On écoute les deux chefs d'État.
Nous allons aujourd'hui continuer à renforcer cette relation de confiance historique entre nos deux pays pour faire face à la fois aux crises internationales comme aux grands enjeux mondiaux.
सभी देशों का एकजुट होकर प्रयास करना आवश्यक है हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए
Aujourd'hui, Claude Blanche-Maison, la France est un partenaire incontournable pour l'Inde et inversement?
Je crois. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que l'Inde respecte les organisations internationales et le droit international. Le deuxième, c'est que l'Inde a une position géographique unique. L'océan qui l'entoure porte son nom, l'océan Indien. Et par conséquent, entre l'Afrique et les territoires français du Pacifique, eh bien, il y a l'Inde. Et par conséquent, l'Indo-Pacifique, c'est l'Inde. Donc nous avons besoin de l'Inde et l'Inde a besoin de nous parce que nous sommes le partenaire de diversification par rapport à la Russie, elle s'est fournie autrefois en armes en Union soviétique, et par rapport aux Américains qui aimeraient bien utiliser l'Inde contre la Chine. Or l'Inde a inventé une formule de politique étrangère qu'elle appelle le multi-alignement, c'est-à-dire je conclue des accords de coopération avec tout le monde, avec tous ceux qui le veulent bien, sur des sujets qui nous conviennent à tous les deux, et nous ne faisons pas d'alliance rigide. L'OTAN, pour l'Inde, c'est quelque chose de ringard. Les alliances militaires rigides, c'est quelque chose du passé. Alors, eux voient une politique étrangère extrêmement souple et diversifiée, avec des accords de coopération stratégiques, avec beaucoup de partenaires. La France a été l'un des premiers en 1998.
Vaijuna Ravanet, c'est ça la position politique, diplomatique de l'Inde aujourd'hui, d'être en quelque sorte toujours non alignée et d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, d'être un peu dans le « en même temps », on pourrait dire.
Oui, voilà, c'est le non-alignement qui ne dit pas son nom, parce qu'il faut aussi bannir l'histoire d'un tel et un tel, mais il faut aussi bannir l'histoire de Nehru et l'héritage de Nehru, qui était le premier ministre de l'Inde. Donc, Narendra Modi ne prononcera jamais le nom Nehru, qui est vraiment le principal acteur dans le non-alignement. Ce que l'Inde pratique aujourd'hui, c'est le non-alignement, surtout renforcé d'intérêts nationaux spécifiques. Le non-alignement avait quand même une base un peu moraliste qui est considérée comme très ringarde aujourd'hui. On va là où sont nos intérêts et ce qui nous profite. Alors, la France profite à l'Inde parce qu'il y a des armements. On veut absolument diversifier l'offre des armements. On ne veut pas être dans les poches ni des Américains ni des Russes. Donc, voilà, c'est l'intérêt que la France a pour l'Inde. C'est une coopération mutuelle au bénéfice des deux.
Et Mélissa Levaillant, est-ce que cette position, elle peut tenir sur le long terme ?
Alors pour l'instant,
c'est tous les enjeux là, internationaux qu'on vit en ce moment.
Oui, oui, pour l'instant, elle tient. On l'a vu dans le positionnement de l'Inde par rapport à l'invasion russe en Ukraine. Les Indiens ont refusé de condamner directement la Russie. Et ils ont, au début, les diplomaties occidentales se sont quand même offusquées parce que c'est un grand partenaire et ils s'attendaient quand même à plus de soutien. Mais les Indiens ont expliqué leurs intérêts et au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Et justement, les Occidentaux ont pris le parti de « Ok, vous ne voulez pas condamner directement la Russie parce que on a compris vos dépendances, notamment militaires, à la Russie. Du coup, on va vous aider à diversifier. » Donc, il y a une compréhension mutuelle sur un certain nombre de sujets comme ça. Et pour l'instant, ça tient et ça fait... C'est pas propre à Narendra Modi. Comme vous dites, ça remonte au non-alignement. La différence aujourd'hui, c'est la capacité à assumer cette volonté de puissance qui est beaucoup plus assumée sur la scène internationale, mais qui renvoie quand même à un héritage assez lointain.
Justement, Claude Blanche-Maison, aujourd'hui, l'Inde est devenue une grande puissance. Elle veut assumer cette position, cette influence. Vous évoquiez d'autres puissances, notamment la Russie, la Chine, etc. Mais le monde a changé. D'autres grandes puissances ont émergé, à commencer par l'Inde. Une vieille tradition démocratique, on le disait, la plus grande démocratie du monde, la première puissance démographique au monde, le pays le plus peuplé du monde, et pourtant, pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que est-ce que ça doit changer?
Et j'ajoute à vos critères la croissance économique, parce que 6% cette année, c'est un des seuls grands pays qui fasse 6% de croissance.
Cinquième puissance économique mondiale aujourd'hui.
Voilà, et qui sera la troisième dans quelques années, parce qu'ils ne sont pas très loin de l'Allemagne, et ensuite il y aura encore à sauter le Japon. Donc ça, c'est une question...
Donc un siège au Conseil de sécurité de l'ONU,
oui, ça serait tout à fait légitime. La difficulté, c'est qu'à l'ONU, lorsqu'on discute du sujet, dès qu'on discute d'un pays asiatique, naturellement, la Chine dit non. Dès qu'on discute d'un pays africain, on parle de l'Afrique du Sud ou du Nigeria, mais l'Égypte dit non. Il y a toujours un pays de la zone qui s'oppose à la candidature. Et évidemment, en Asie, il y a d'autres candidats. Il y a le Japon. Le Japon perdant de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'Allemagne, mais il voudrait bien aussi être membre permanent du Conseil de sécurité. Donc il faudrait qu'il y ait un grand Big Bang pour que les gens en arrivent à une solution raisonnable et résoudre les différents problèmes que je viens d'évoquer en même temps.
Beijou Naravane, est-ce que cette puissance économique qu'on évoquait à l'instant, elle profite aux Indiens? Est-ce qu'ils en récupèrent les fruits?
L'Inde a le plus grand nombre de milliardaires aujourd'hui, il y a plus que 200. Bombay est la ville qui a le plus grand nombre de milliardaires dedans, qui est habitée par le plus grand nombre de milliardaires au monde. Et puis, le problème avec la cinquième économie du monde et tout le reste, c'est que quand on voit la revenu par tête d'habitant, l'Inde reste... très, très pauvres. Il y a au moins 500 millions d'Indiens qui vivent, mais vraiment dans la pauvreté la plus absolue. On a un grand programme de subvention de l'État où, quand vous avez 300 millions de personnes qui doivent recevoir les rations alimentaires tous les mois de la part du gouvernement pour survivre, ça vous dit long, et les écarts entre les plus riches et les plus pauvres continuent à se creuser.
Merci Vaiju Naravane, on veillera justement, on regardera la suite de ces élections qui vont donc durer 6 semaines, 44 jours, et il y a donc encore un long chemin à parcourir avant que la croissance profite à l'ensemble de la population. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.